Le balado Persistance coloniale est une production du groupe d'études sur le colonialisme québécois.
Discussion sur les manuels scolaires et le colonialisme québécois avec Adèle Clapperton-Richard et Benoît Gaudreau.
Catherine, tu as exploré aussi les réactions des enfants à ces récits-là, les pratiques externes. Comment ça s'est déployé au 19e siècle pour toi, justement, cette pratique-là de « jouer à l'Indien », entre guillemets, ou de performer l'indianité?
Oui, bien, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'au 19e siècle, les manuels d'histoire, en fait, sont presque secondaires dans... pas dans le sens là, de l'école secondaire, mais ils sont pas les vecteurs premiers de l'apprentissage à l'école de toutes ces représentations racistes des premiers peuples. Ça arrive souvent par l'enseignement de la langue. Et en me préparant pour discuter avec vous aujourd'hui, je me suis dit qu'il y avait là quelque chose que j'avais comme pas encore réfléchi et qui est peut-être très, très puissant quand on pense au génocide, au pensionnat, à comment aussi on a voulu éliminer notamment les langues autochtones, mais comment, à l'inverse, l'apprentissage de la langue française ou anglaise par les jeunes Canadiens s'est fait par des histoires qui mettent en scène les populations autochtones dans leur version les plus stéréotypées. Et donc, je n'ai pas de conclusion, là, mais c'est une réflexion que je me suis faite ce matin qui avait là clairement quelque chose de particulièrement puissant. Et donc, dans les histoires, même d'ailleurs, dès le primaire, avant même de savoir lire, on conseille aux professeurs de raconter aux enfants des histoires qui mettent en scène ces populations-là. Donc, pour les divertir, mais aussi pour les intéresser à la patrie, donc à la nation. Ensuite, il y a effectivement donc toutes sortes d'activités autres qui mettent en scène ces figures-là, mais surtout la performance à travers le théâtre. Donc, il y a beaucoup de traces de théâtre scolaire qui reposent sur une personnification par les élèves canadiens-français de figures autochtones dans une opposition très claire entre civilisation et sauvagerie, et dans laquelle, évidemment, la religion catholique est l'élément clé du récit, donc avec certains personnages autochtones qui se convertissent et donc qu'ils ont une rédemption, mais souvent une rédemption qui se produit en même temps qu'une soumission ou une assimilation au groupe blanc. Et évidemment, un rejet et toutes sortes de malheurs qui arrivent aux personnages autochtones qui, eux, ne se convertissent pas. Mais ce sont les jeunes Québécois blancs qui jouent donc tous ces personnages-là, donc qui s'approprient l'indianité. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que donc l'école a participé à cette pratique nord-américaine. C'est pas une particularité québécoise d'ailleurs. Puis je pense qu'une partie de ce qu'on raconte aujourd'hui, c'est à la sauce québécoise, mais c'est quelque chose qui est excessivement nord-américain. Ça revient peut-être à le propre du balado, c'est-à-dire réfléchir à cette question coloniale-là dans le contexte québécois. Mais évidemment, ce n'est pas un contexte qui est unique.
Comment on peut lier justement peut-être ces performances-là et ces représentations-là justement à l'identité qui se construit, dans ton cas, au 19e siècle?
Oui, bien, ça arrive en fait assez tardivement au 19e siècle, mais je pense que l'identité québécoise, canadienne, française qui se construit à ce moment-là, elle est excessivement liée à la narration de l'histoire de la Nouvelle-France. Puis ça, en fait, je pense que ça se poursuit dans les périodes que vous avez étudiées. Donc, le fondement de l'identité nationale, puis ça, c'est-à-dire c'est similaire à ce qui se déroule dans les différentes nations occidentales à la même époque, pas juste dans les colonies comme le Canada. On peut penser à la France et tout ça, c'est-à-dire on construit l'idée nationale sur un âge d'or des origines. Et au Québec, bien, l'âge d'or des origines, c'est la période de la Nouvelle-France. Et donc, c'est précisément cette période-là, d'ailleurs, qui est mise en scène dans le théâtre scolaire que les jeunes performent. Et donc, on veut créer un sentiment d'appartenance à ces personnages, à ces héros, justement, dont on a parlé juste avant, héros et héroïnes, de la part des enfants, parce que la nation, c'est pas un donné naturel, hein. Il faut la construire constamment de génération en génération. Puis je pense que c'est ce que les manuels des différentes périodes qu'on a étudiées montrent, c'est que ça ne va pas de soi. Et donc, si l'école ne répond plus à cette mission-là de transmettre le sentiment national, est-ce que la nation reste? C'est une question que je me pose.
C'est précisément pour ça que même si les modalités des discours changent dans les manuels, tu sais, on passe d'une histoire romantique plus religieuse à une histoire objective, entre guillemets, laïque, mais comme je disais tantôt, ces fondements-là demeurent les mêmes parce qu'il faut continuer de construire ce sentiment national-là qui est toujours basé sur la réitération de la présence, donc canadienne, française, québécoise, etc., donc de la colonisation. Tu sais, on en a encore besoin si on veut continuer de légitimer d'ériger un peu la nation québécoise comme seule et unique nation légitime, on va dire.
Si on la présentait sans cette rhétorique qui sert à légitimer la nation québécoise, c'est assez, c'est assez immoral comme histoire, c'est-à-dire... Puis je pense que c'est très facile de voir que c'est une société basée sur quelque chose de pas très bien, tu sais.
Exact. Bien, c'est que c'est une histoire qui invisibilise complètement les rapports de pouvoir et de domination qui sont au fondement, en fait, du récit. Puis, tu sais, moi, je me rappelle, j'avais comme conclu mon mémoire avec cette idée de « OK, ça invisibilise les rapports de pouvoir, ça refuse une histoire aux Premières Nations, aux communautés racisées, aux ouvriers ouvrières, aux toutes les personnes marginalisées, aux femmes, etc. Mais ça refuse par le fait même sa propre histoire. Qui est, comme tu dis, Catherine, qui n'est pas belle, qui n'est pas, qui n'est pas nécessairement glorieuse, en fait, qui n'est pas du tout glorieuse comme l'entend pourtant le récit historique enseigné. Puis, tu sais, dans les volontés d'inclusion, on va dire, ou de changement du récit, tu sais, des manuels plus actuels, on va dire, ben oui, il y a une certaine acceptation, on peut dire, ou en tout cas présence de ces pans-là de l'histoire moins glorieux, mais c'est pas encore réellement inclus ou ça ne contribue pas à changer réellement la trame globale du récit, à mon sens, en tout cas.
On n'a pas encore abordé la question de dire comment maintenir une société harmonieuse, en cohésion, avec un récit, comme tu dis, qui n'est pas glorieux. Puis je pense qu'il y aurait quand même matière à s'inspirer de d'autres endroits, tu sais, Afrique du Sud, l'Allemagne, qui ont, je pense, et là, j'espère que je ne parle pas à travers mon chapeau, fait face de façon plus concrète, plus directe avec leur passé pas glorieux, justement, très peu glorieux. Et ça ne veut pas dire que ça fait un... Comment dire? Ce n'est pas gage d'une implosion de la société ou de la cohésion nationale, mais je pense que ça pourrait au contraire vraiment déjà faire en sorte que beaucoup de groupes se sentent reconnus dans cette société-là.
Ça touche beaucoup à mes recherches, cette discussion-là, parce que pour se perpétuer, le système colonial, l'État colonial doit créer des mythes, doit créer des... doit utiliser des tactiques, justement, pour continuer d'exister, parce que c'est comme une espèce de paradoxe de... On existe sur la destruction, mais il ne faut pas qu'on voit la destruction, parce que si on voit la destruction, on va cesser d'exister. Et dans mon mémoire, j'ai utilisé une idée de Freud, donc ça sort un peu de l'habitude, là, mais c'est le principe de mémoire-écran. Donc, c'est comme une reconstruction inexacte de ce qui est vraiment arrivé pour obscurcir une mémoire qu'on ne veut pas voir. Comme dans le cas de mon mémoire, bien, la mémoire-écran du récit, c'est la mission civilisatrice. La mission civilisatrice, c'est ce qui cache toutes les violences. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tous les personnages, surtout dans les manuels du primaire, sont présentés comme avant tout des civilisateurs. Donc, Cartier est venu convertir, Champlain est venu convertir, la mission, toutes les installations, Trois-Rivières est présentée comme une volonté de conversion. Montréal, bien sûr, c'est sûr que c'est connu, mais Il n'y a rien, jamais la violence est mentionnée. C'est tout le temps le projet missionnaire qui fait la mémoire écran. Donc, on obscurcit toutes les violences. Tout ce qui n'est pas beau, tout ce qu'on ne veut pas voir, c'est caché derrière cette mission civilisatrice. Donc, c'est un peu pour ça, à mon avis, la présence aussi, comme j'ai dit plus tôt, des missionnaires dans le présent, donc dans le récit actuel des années 50. C'est justement parce que ça sert à cacher cette espèce de colonialisme-là qui s'étend maintenant vers le nord du Québec, vers le nord du Canada pour les ressources naturelles. Donc, on présente ça comme encore une idée de... on va là pour aider les premiers peuples, pour aider, puis pour civiliser. Donc, c'est vraiment intéressant. Le récit québécois et canadien en général, mais particulièrement québécois, est rempli de ces mémoires écrans-là qui, au fil des époques, changent, mais toujours pour cacher ce qu'on ne veut pas voir. Puis ce que ça permet aussi, bien, c'est de nier toute revendication autochtone. Parce que ces mémoires écrans-là sont utilisées après ça par les gouvernements successifs pour dire bien, on n'était pas là pour faire des mauvaises choses, on était là pour les bonnes causes. Donc, la mémoire écran permet aux colonialistes de se perpétuer. Mais c'est quelque chose qui est très difficile à se débarrasser parce que enlever cette mémoire écran-là, on a juste le lait du récit.
Je me rends compte, tu sais, les manuels des années 67-82 transmettent un sentiment de maître chez nous, justement, en légitimant vraiment la présence canadienne-française qui s'est perpétuée puis qui se consolide de plus en plus avec les nouvelles figures politiques, là, comme l'évêque, etc., qui viennent vraiment, pas remplacer, mais on part de l'âge d'or de la Nouvelle-France avec des figures politiques importantes comme Champlain, etc., puis la continuité de cette trame-là se poursuit jusqu'à l'arrivée des figures politiques importantes comme l'évêque, puis ça vient légitimer le sentiment de présence québécoise sur le territoire. On dirait que là, c'est la géographe qui va parler, parce que bon, maintenant, je poursuis des recherches en géographie, tu sais, puis le territoire est vraiment central, puis il est central parce que tout ça est rendu possible par la dépossession territoriale, puis par l'accaparement du territoire, qui est peu présent au final dans le récit historique, l'accaparement du territoire. T'sais, oui, puis on va parler de l'installation des Français, les colons, etc., mais la poursuite de cette colonisation-là, de l'installation qui se perpétue, n'est pas nommée.
Le peuple dont on doit présenter les revendications de souveraineté, c'est le peuple québécois. Encore une fois, c'est de se dire, en fait, tant qu'on n'est pas capable de sortir d'une vision de l'enseignement de l'histoire qui soit, disons, pas nationale, même si c'est dur de penser qu'on puisse y arriver prochainement, mais c'est dur donc de présenter les revendications de plusieurs peuples. On peut le faire dans des projets où on étudie des sociétés ailleurs. Là, pas de problème, on peut présenter les différents acteurs en place puis leurs différentes revendications et tout, mais quand on rentre dans l'histoire qui est supposée être l'histoire nationale, ça devient en fait contraire à la mission même de cet enseignement-là de présenter les raisons d'être et les revendications des différents groupes en place sur le territoire.
Ça pose la question quand même dure là, de comment enseigner l'histoire d'un territoire spécifique sans que ce soit une histoire nationale coloniale ou qui vienne
exclusive, ouais.
Exclusive, exact, une idée de nation qui exclut donc mm-hmm. de cette idée de nation toutes sortes de
ouais.
d'histoires en fait.
Ça pose la question aussi de l'investissement des historiens professionnels dans la création des manuels scolaires. Depuis la sortie du livre de Sylvie Vincent et Bernard Arcan, L'image de l'Amérindien dans les manuels scolaires du Québec ou Comment les Québécois ne sont pas des sauvages en 1979. Il y a vraiment eu un effacement parce que ça a été vraiment une claque d'en face, pour le dire, aux historiens qui avaient participé au manuel justement que tu as analysé, Adèle. Après ça, ils vont progressivement quitter. parce que ce serait vraiment intéressant. Il y a des perspectives, il y a plusieurs travaux qui ont porté justement sur la fameuse entente avec les cris de l'abbé James, qui ont remis en question justement le narratif du gouvernement, puis qu'on enseigne, de ce que je peux voir maintenant dans les manuels scolaires, de l'idée d'une entente positive, de présenter ça comme un développement économique, mais pas comme ce que c'est, comme du colonialisme. Je ne sais pas, vous, est-ce que toi, Catherine ou Adèle, vous auriez pensé peut-être de cette idée-là de se réinvestir dans le monde des manuels scolaires? Parce que je sais que c'est un monde compliqué qui peut être noyauté par des gens plus nationalistes. Brian Gettler en parle justement dans un article qui les nomme les nationalistes conservateurs. Donc, peut-être que ça prendrait, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un réinvestissement de la part, peut-être une plus grande consultation de la part des maisons d'édition, justement d'historiens professionnels qui ont un contre-discours de ce que le gouvernement va vouloir promouvoir à travers le récit historique?
Bien, oui, mais c'est sûr qu'il y a toute la question aussi des programmes du ministère lient un peu les mains aux auteurs et autrices de manuels d'histoire, manuels scolaires, parce qu'il y a le programme, une grille avec les éléments à aborder qui doivent figurer dans le récit. Mais au-delà des historiens et historiennes, tu sais, il y a les principaux et principales concernés aussi à consulter. Puis quand je...
Mais là, quand tu dis les principaux et principales concernés, moi, je pense à deux groupes. Tu penses auxquels?
Moi, je pensais à... Quand j'ai fait mes recherches pour mon mémoire, là, je tombais sur des mémoires qui ont été présentées au ministère de l'Éducation par exemple, le Centre d'éducation en pour éducation. Les premières nations.
Ouais. Ouais,
le CPN. Dans les années 80, il avait fait des recommandations au ministère. Tu sais, pouvez-vous arrêter de justement parler juste des Hurons et des Iroquois? Pouvez-vous utiliser les vrais noms dans le langage des Premières Nations? Tu sais, au lieu de Huron-Wendat, c'est Wendat, ou les Iroquois, c'est les Haudenosaunee, ou tu sais, aborder la diversité des nations aussi, des 11 nations autochtones sur le territoire du Québec. Puis ça date des années 80, tu sais, puis il y a eu du progrès, je pense, qui a été fait un peu plus, mais on est loin d'atteindre toutes ces recommandations-là, je pense. Par principaux, principales concernées, je pensais d'abord à ça, tu sais.
Mais c'est drôle parce que sur le coup, j'ai pas pensé à ça, puis après, je me suis dit que tu pensais probablement justement aux Premières Nations. Moi, j'ai pensé aux élèves, les principaux, principales concernées des manuels scolaires, tu sais, les élèves, puis je pense aux travaux de Jocelyn Létourneau, notamment. Mais aussi aux étudiants et étudiantes que je vois, moi, à l'université, qui arrivent puis qui suivent les cours d'histoire à l'université, qui me disent « Hey, j'avais jamais pensé que l'histoire du Québec, ça pouvait m'intéresser. » Souvent, c'est des étudiants et étudiantes issus de l'immigration. Puis, ils sont comme « Ah, mais ça peut être ça, ça peut être autre chose que ce qu'on apprend au secondaire qui m'avait dégoûtée. » Donc, moi, je dis que je serais incapable de m'impliquer dans la rédaction des manuels scolaires parce que j'en ai développé une aversion, mais aussi je vois aussi pas comment ça peut être pas essentialisant parce que dans un sens c'est carrément un livre là, fait qu'il y a un cadre qui fait qu'on c'est quelque chose de cadré nécessairement. J'aurais tendance à dire comme Adèle, je pense là où j'aurais peut-être envie de dire des choses, c'est sur la constitution du programme. Puis dans mon cas, surtout au primaire, parce que c'est ce que j'ai plus étudié, c'est ce que j'ai vu aussi dans les dernières années avec mes enfants, dont les plus vieilles finissent le primaire en ce moment. Ça serait davantage dans l'élaboration du programme et aussi dans l'élaboration de matériel pédagogique. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que les profs, qui de plus en plus veulent mieux faire, ils demandent à avoir accès à du matériel pédagogique plus inclusif, puis qui les aide à mener justement à développer cette nouvelle façon d'aborder l'histoire du Québec.
C'est un autre aspect qu'il n'y a pas beaucoup de recherches qui couvrent en histoire, peut-être qu'il y en a en didactique, mais c'est l'aspect de l'enseignant. Parce que ça, c'est un mystère pour moi, pour ma période d'études. J'ai étudié les manuels scolaires. Dans les manuels des années 50, on a ce qu'on appelle des guides du maître. Donc, ils sont comme des manuels que le professeur a entre les mains, qu'on suggère des activités, on suggère des performances à faire faire aux enfants, faire rejouer des histoires, des questions sur les histoires qu'on enseigne pour les plus jeunes du primaire. Mais il y a toujours la dimension de se demander à quel point ça a été utilisé, à quel point on a dévié. Mais c'est toujours, c'est comme un aspect qui est quand même important aussi, l'enseignant, qui est comme un angle mort de la recherche sur les manuels scolaires. Puis ça a né d'un débat aussi. Il y a eu un débat dans les années 90, justement, sur est-ce que les manuels scolaires ont vraiment une influence ou non. Je me souviens plus, il me semble le nom de famille du chercheur, c'est Carité.
Christophe Carité.
Bien, justement, qui remettait un peu en question cette influence-là des manuels scolaires. Mais en même temps, la persistance dans le temps des stéréotypes, moi, me prouve le contraire aussi. Tu sais, entre ta thèse, Catherine, puis ton mémoire à Adèle, on a trois mémoires. Après ça, il y a le livre de Sylvie Vincent et Bernard Arcan, le travail d'Elga Elisabeth, Boris Awala et Martin Thibault. Tout ça mis à bout, on retrouve la même chose. Donc, il faut en déduire quelque part que ces manuels-là doivent avoir une influence si ça reste dans le temps, si ça persiste, les mêmes images, les mêmes stéréotypes. Même si on peut voir à certains moments une évolution des fois dans la terminologie, dans la façon de raconter les choses, le même vieux fond colonial est toujours présent.
C'est vrai que la question donc de comment les profs transmettent le récit, puis c'est vrai que la question de comment les élèves reçoivent ça aussi, tu sais, un ou une professeure pourrait décider d'accorder plus de place à l'histoire autochtone, mm-hmm. par exemple, malgré le fait que tu sais, il y a le programme à respecter.
Ça conclut bien, je trouve, notre discussion sur les manuels scolaires, d'aller vers les enseignants, les enseignantes. Puis ça me donne l'idée qu'il faudra refaire ce type de discussion-là avec peut-être Aude Malte-Landry, qui était avec nous à l'atelier de novembre 2021, et Alexandre Lannoy, qui enseigne à l'Université de Montréal et dont les recherches ont porté justement sur la perspective des enseignants et enseignantes sur l'enseignement de l'histoire. Donc, on verra s'il y a là une deuxième interprétation, finalement, que celle qui est la nôtre, qui est d'abord et avant tout historienne. Adèle, tu es doctorante en géographie à l'Université Laval et tu nous as rejoint aujourd'hui en direct de Pessamit. Benoît Gaudreau, étudiant à la maîtrise en histoire à l'Université de Montréal. Merci à tous les deux d'avoir été avec moi aujourd'hui. Nous remercions la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, ainsi que le Laboratoire multimédia de l'Université de Montréal. À la recherche, Benoît Gaudreau. Enregistrement et montage, David Cherniak. Ici Catherine Larochelle, du groupe d'études sur le colonialisme québécois. Au plaisir du prochain rendez-vous du balado Persistance coloniale.